Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Machine à Sens, un podcast 100% dédié aux entreprises à mission. Dans La Machine à Sens, nous allons à la rencontre de dirigeants, de managers de mission qui nous expliquent leur motivation et leur cheminement vers la société à mission, mais également des experts et des auteurs qui viennent éclairer un sujet social, sociétal ou environnemental. Je m'appelle Vivien Pertuso et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui, je vous présente Alexandre Sévenet, président fondateur de Nebsen, cabinet un peu particulier, vous le verrez, spécialisé dans la transition écologique. Nebsen se caractérise par une longue histoire dans l'efficacité énergétique depuis les années 80, mais a connu sa mue quand Alexandre a repris l'entreprise il y a une quinzaine d'années. C'est aujourd'hui une entreprise multisectorielle, forte de 150 collaborateurs et présente un peu partout en France. Dans cet épisode, Alexandre revient sur cette évolution. Comment Nebsen a créé un nouveau métier, celui d'éco-énergéticien engagé. Les spécificités de l'entreprise, qui combine un peu de bureau d'études, un peu de cabinet de conseil. Il revient également sur les motivations derrière le passage en société à mission et ce qu'il en attend. On a enfin parlé de quelques-unes de ses convictions profondes, notamment sur la transition écologique et le changement climatique, bien évidemment. Vous verrez, il assume d'avoir des positions assez radicales. C'est un entretien passionnant qui aurait pu durer des heures avec un entrepreneur passionné. Je vous souhaite une excellente écoute et j'espère que vous retirerez plein de bonnes pratiques de cet entretien. Bonjour Alexandre.
Bonjour Vivien.
Bien, merci beaucoup de me recevoir dans vos locaux, ici en bordure du bois de Vincennes. Je suis venu en vélo pour venir et c'est très très agréable.
J'avoue.
C'est vrai que je me suis dit, je sais pas si vous l'avez fait exprès, mais en tout cas, vous pouviez pas trouver un meilleur endroit pour allier votre métier, le côté un peu nature, en bordure de Paris. Donc c'est plutôt agréable.
Ah ben, on n'a pas vraiment fait exprès, on a un peu pris ce qu'on pouvait quand même, hein, comme beaucoup d'entreprises qui cherchent des locaux adaptés. Par contre, on tenait absolument à ce qu'il y ait une douche, parce qu'on a beaucoup de collaborateurs qui viennent en vélo, beaucoup aussi qui font du sport entre midi et deux. Et donc on voulait absolument qu'il y ait une douche, donc on a une douche en bas qui sert fréquemment et on a dû changer le ballon, ce qui n'était pas assez gros.
Voilà. vous expliquerez un petit peu Nebsen, l'activité de Nebsen dans quelques secondes, mais donc ce que je trouvais assez intéressant et une des raisons pour lesquelles je voulais absolument vous interroger, c'est que il y a une sacrée évolution quand même de l'activité de Nebsen, on y reviendra. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment un acteur hyper engagé sur la transition écologique, avec parfois des positions, vous, en tant que dirigeant, que certains pourraient trouver assez vindicatives, mais c'est quelque chose dont on a parlé un petit peu avant et on en reparlera après. Peut-être pour vous présenter en quelques mots, et vous me direz si c'est une bonne description de qui vous êtes. Quand j'ai regardé un petit peu votre profil, je me suis dit que ça faisait très longtemps que vous prépariez votre poste actuel. Finalement, alors vous avez fait une école de commerce, ce qui est assez étonnant parce que je pense que vous êtes entouré à 90% d'ingénieurs et tous les mêmes vos clients, les 90%, ce sont des ingénieurs. Mais vous avez donc formation école de commerce avec filière entrepreneur, mais le côté président fondateur aussi, on pouvait le voir, parce que vous étiez déjà membre du conseil d'administration de votre école à l'époque. Et après, vous êtes orienté sur des métiers un peu plus classiques de commercial pendant quelques années. En 2006, vous reprenez Pasio, donc auprès de Jacques Pasio, qui était le fondateur donc de cette entreprise créée en 1979. Un sacré personnage de ce que j'ai cru comprendre. Hein. Donc, entreprise qui s'était spécialisée dans l'efficacité énergétique, très pionnier dans la manière de concevoir les choses. Ensuite, vous avez développé l'entreprise avec un certain nombre de filiales, différentes implantations, toujours très locales, plutôt régionales, si je puis dire. On y reviendra parce que c'est vraiment quelque chose d'assez constitutif, j'ai l'impression, du groupe. Et vous avez diversifié un petit peu vos activités, donc de l'efficacité énergétique. Vous êtes devenu un acteur complet de la transition écologique avec de nouveaux métiers que vous avez pu incorporer au fur et à mesure des années. Puis en 2021, vous avez décidé de fusionner les différentes marques sous la bannière unique de Nebsen, acte presque fondateur ou refondateur, si je puis dire, j'ai l'impression. Et comme je le disais, on peut dire que vous avez quand même des positions assez claires, assez tranchées sur les sujets de transition, on a beaucoup parlé. À un moment, il faut agir, voir, et on en reparlera plutôt vers la fin de cet épisode.
Mais il faut pas avoir peur de parler d'écologie punitive. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Oh bah si vous avez oublié quelque chose, on complétera au fur et à mesure du podcast, mais non, c'est assez fidèle à l'histoire qu'on a vécue et puis à l'avenir qu'on prépare. Ouais.
Après, pour justement commencer et bien comprendre les différentes activités de Nebsen et où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette décision assez stratégique de réunir toutes vos filiales sous une même bannière en 2021?
Alors c'est quelque chose qui était fréquemment évoqué depuis le début. En fait, sur l'avenir de l'entreprise, on dialogue en permanence avec les salariés et les collaborateurs. Hein, une des difficultés que les collaborateurs rencontraient avec notre organisation précédente, c'était la multiplicité des structures juridiques qui perturbait la lisibilité de l'ensemble du groupe par les clients. Voilà. Et même aujourd'hui, il y a des clients qui nous connaissaient à l'époque sous le nom d'une entité locale, qui n'ont pas encore forcément fait le rapprochement, donc vu bah, la taille totale du groupe. Alors,
vous aviez combien de filiales et d'entités juridiques?
Une quinzaine. Voilà. Alors, moi historiquement, j'avais procédé comme ça parce que j'avais un plan de développement qui était quand même pas mal basé sur la croissance externe, du rachat de petites structures. Et donc, quand on rachète une entité dans nos métiers, si on la débaptise très rapidement, en fait, on rachète une coquille vide, quoi. Il faut garder le nom un certain temps. Donc, de toute façon, il fallait conserver les noms un certain temps. Et puis, quand on faisait pas de la croissance externe, bah, la croissance organique, c'était un ingénieur confirmé qui avait envie de vivre une aventure entrepreneuriale et qui partait créer une agence en local. Et donc, il prenait des parts du capital de cette agence locale et on faisait le choix du nom ensemble. Donc, c'était un peu son bébé, voilà. Donc, il y avait ce côté-là, donc vraie appropriation locale. Et puis, nos clients, à l'époque, bon, encore beaucoup aujourd'hui, mais étaient quand même essentiellement des gens du terrain, des chargés d'opération, des chargés de projet de terrain, c'est les gens à qui on s'adressait. Et j'avais la conviction, que j'ai toujours d'ailleurs, que ces gens-là, ils préfèrent travailler avec Armoen plutôt qu'avec Nebsen Bretagne, en fait. Dans notre monde, qui est le monde de la transition écologique, la boucle locale, ça a du sens. Et puis, quand on a une approche RSE dans la vision des choses et de l'entreprise, bah, c'est pareil, la relation locale de proximité a du sens. Donc, je vivais très bien avec ça et j'adorais même cette notion de flottille, finalement, avec des bateaux qui ont chacun leur nom et qui se dirigent à peu près tous dans le même cap, mais avec un rythme un peu différent, une route peut-être un peu différente à certains moments, s'il y en a un qui prend un coup de vent parce que il est un peu décentré par rapport aux autres, mais il va arriver à peu près au même endroit. Voilà. Donc j'aimais beaucoup cette image-là. Mais c'est vrai que les collaborateurs nous disaient, oui, c'est quand même compliqué d'avoir tous ces noms, on a du mal à avoir de la visibilité de la part des candidats quand on veut recruter, et de la part des gros clients. Or, dans nos opérations, on avait beaucoup de petites opérations locales qui nous prenaient beaucoup de temps et bah, malgré tout, une entreprise, ça doit gagner un peu d'argent, et donc il fallait qu'on trouve une solution pour être un peu plus serein dans la rentabilité de nos affaires, donc des affaires plus grosses, donc avec des clients plus gros, donc un niveau d'interlocuteur qui monte un peu. On s'adresse à plutôt à des gens qui sont directeurs maintenant, et ces gens-là sont rassurés par un nom unique, une taille unique, enfin une grosse taille sur l'échelle de la France, etc., etc.
Voilà. Au niveau de vos clients, c'est quoi les différentes typologies?
Un bon tiers logement social, essentiellement avec des opérations de réhabilitation énergétique. On est maître d'œuvre tout corps d'état de réhabilitation énergétique. Et puis tout ce qui va être accompagnement sur la prise de décision, hein, donc les audits énergétiques, et puis ensuite le maintien de la performance dans la durée avec la mise en place de contrats d'exploitation avec garantie de performance. Bon, donc logement social, c'est un bon tiers, les collectivités, c'est un quart à peu près, et puis ensuite bah, ça se répartit avec les industriels, les copropriétés, des administrations de différents types, voilà. C'est beaucoup plus varié. Mais on a deux gros moteurs qui sont effectivement les collectivités locales, enfin en un le logement social, en deux les collectivités locales, parce que ce sont les clients qui le plus tôt se sont réellement lancés dans la transition énergétique pour des raisons réglementaires et des raisons politiques. Voilà. Donc c'est eux qui faisaient. Voilà, ce que faisait le privé jusqu'à il y a quelques années, c'était beaucoup de vent, beaucoup de communication, beaucoup d'événementiel. Hein. Les gens qui gagnaient de l'argent dans la transition écologique dans le privé, c'était des gens qui montaient des salons, ou qui lançaient des magazines ou qui faisaient des podcasts.
Mince. J'espère que je vais pas faire trop de vent quand même, hein.
Non, voilà. Donc, mais on est en train, ça y est, sur le privé depuis quelques années, de passer aussi à l'ère du concret, de l'action, et je m'en réjouis.
Ce qui était intéressant en regardant les différentes structures, c'est que parmi la quinzaine de filiales que vous aviez certaines d'entre elles qui étaient qui avaient le statut ESUS.
Oui. Ben ça, c'était avant que la loi Pacte passe et que le statut d'entreprise à mission donc soit créé. C'était le statut qui se rapprochait le plus de ce qu'on voulait être, en fait. Voilà. Donc on a fait des tests avec deux filiales. Ben, il y avait un formalisme un peu contraignant. Enfin, pas trop quand même, mais bon, voilà. Donc, quand on a décidé de devenir entreprise à mission, on s'est posé cette question-là. Est-ce qu'on fait le coup double et entreprise à mission et ESUS? Et en fait, ce statut ESUS apporte donc des contraintes, quelques règles, et puis pas grand-chose en termes de fonctionnement réel de l'entreprise. Voilà. Donc on a décidé de créer des statuts d'entreprise à mission assez précis, assez détaillés, et puis d'en rester là, et déjà de mettre en place les tableaux de bord et les méthodes de travail qui rendent cette mission vivante. Alors, nous, on a une façon de faire le métier qui est assez atypique. On fait un métier de bureau d'études et d'ingénierie, puisqu'on est sur des projets, on fait des choses concrètes. On fait des études de conception, on fait du suivi de réalisation, de la réception de projets. Mais on le fait en étant organisé comme un cabinet de conseil. C'est-à-dire qu'on constitue sur chaque projet un binôme, ou un peu plus si le projet est gros, qui va prendre en charge le projet de A à Z, totalement.
Dans la suite de l'entretien, Alexandre explique le positionnement singulier de Nebsen sur le marché, avec la création d'un nouveau métier, celui d'éco-énergéticien engagé, et également l'évolution des clients pour qui la transition écologique et énergétique devient un enjeu de plus en plus majeur.
Entre 2006 et aujourd'hui, comment est-ce que vous avez fait évoluer les différents métiers? Est-ce que ça a été, vous avez suivi le marché? Est-ce que vous étiez en avance de phase du marché? Est-ce que vous avez fait émerger des métiers? Parce qu'il y a un terme que vous utilisez beaucoup. Et j'ai regardé, j'ai pas trouvé d'équivalent, c'est éco-énergéticien.
Alors, éco-énergéticien même. Ouais,
Éco-énergéticien, ouais.
éco-énergéticien. Ah oui, ben ça, c'est le terme que j'utilise depuis le début, hein, éco-énergéticien engagé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, éco-énergéticien, ça a une consonance un peu concrète, un peu technique, un peu scientifique. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on fait un métier qui est un métier d'économie d'énergie ou d'énergie et d'écologie, mais concrètement, et avec une approche donc technique, scientifique et autour de projets. Voilà. Ça, c'est le premier sens. Et engagé, ça a un double sens. Engagé, bah, d'abord par notre organisation d'entreprise et le métier qu'on fait, mais aussi engagé vis-à-vis de nos clients sur la réalité des performances qu'on leur promet. Voilà. Quand on fait un audit, qu'on rend un audit, on veut que les différents scénarios et les pourcentages d'économie d'énergie associés soient réalistes, crédibles, et si le client nous demande de nous engager, de les garantir, qu'on sera en mesure de le faire. Voilà.
Et par rapport à la transition aujourd'hui, enfin c'est devenu un incontournable pour les entreprises. Enfin, tout le monde en parle, c'est absolument partout. Est-ce que vous avez l'impression que au-delà des mots, il y a quand même un passage à l'action qui est beaucoup plus fort qu'on, admettons, il y a même 5 ans?
Oui, alors il y a 15 ans, on parlait plus de développement durable que de transition. Ça fait
C'est vrai, ouais.
effectivement 5 ans qu'on parle de transition. Et c'est peut-être lié, parce que oui, effectivement, on voit depuis à peu près 5 ans les choses se faire chez nos clients. Donc le public, je le disais tout à l'heure, ça fait déjà un certain temps, parce qu'ils y sont incités réglementairement et puis par des subventions aussi, hein. Un bailleur social, par exemple, quand il fait une réhabilitation, ben, il a tout intérêt à faire une vraie réhabilitation énergétique parce que finalement, il va monter plus facilement son projet financièrement. En fait, il aura plus d'aide, des facilités de prêt, etc. Alors que s'il faisait une réhabilitation juste classique, ben, en fait, ce serait financièrement plus compliqué à monter. Voilà. Donc le public, ça fait un moment que c'est du concret. Le privé commence à y venir. les stimuli réglementaires sont de plus en plus importants, et surtout les attentes sociales. Voilà. Pendant des années, des années, des années, on a communiqué, hein, et on communique encore sur les enjeux du changement climatique et puis de la préservation des ressources de la planète et de la biodiversité d'une manière générale. Et ben on commence à en toucher les dividendes quand à l'école primaire puis au collège en SVT vous faites des cours sur la biodiversité, sur le changement climatique, ben forcément il y a des graines qui sont semées qui germent pour certaines d'entre elles et font qu'aujourd'hui des gens qui ont 25, 30, 35 ans ont été à l'école au moment où ils ont eu tous ces messages là et ça leur parle, ça fait partie de leur matrice personnelle et ils ont envie d'y contribuer. Donc il y a aussi ce stimulus social qui est assez conséquent qu'on voit réellement. Bon, je pense qu'il en manque encore un, mais on parlera à la fin. C'est le coût de tout ça, le coût de l'inaction qui soit beaucoup plus matérialisé. Voilà, donc oui, les choses changent. Et la réglementation nous aide, puisque là, par exemple, l'EFRAG est en train d'essayer de travailler sur des normes hein, de comptabilité sociale, environnementale. Bon, bah, quand ce sera normé, sera suivi, il y aura des conséquences économiques dessus, voire judiciaires le cas échéant. Hein. L'État a été condamné l'an dernier, vous voyez, donc quand on arrive à même condamner un État, on peut se dire que des entreprises potentiellement pourraient être condamnées. Donc tout, voilà, les dirigeants ont conscience de tout ça. Et donc il y a une conjonction de planètes, hein, voilà, il y a les attentes des gens, la réglementation, et puis juste la physique, hein, comme dirait Jean-Marc Jancovici, à un moment il faut juste se ramener à la physique, il y a des choses qui sont juste inévitables, donc bah, voilà, il faut...
Et par rapport à cette montée en puissance, aussi cette montée en charge pour vous, comment est-ce que l'entreprise s'est développée? Vous avez dû, j'imagine, beaucoup plus recruter. Est-ce que vous arrivez à toujours à trouver les bons profils? Comment ça se passe un petit peu à ce niveau-là?
Alors, nous, on a une façon de faire le métier qui est assez atypique. On fait un métier de bureau d'études et d'ingénierie, puisqu'on est sur des projets, on fait des choses concrètes. On fait des études de conception, on fait du suivi de réalisation, de la réception de projets. Mais on le fait en étant organisé comme un cabinet de conseil. C'est-à-dire qu'on constitue sur chaque projet un binôme ou un peu plus si le projet est gros, qui va prendre en charge le projet de A à Z, totalement. On ne taylorise pas les tâches, c'est-à-dire qu'on n'a pas de spécialistes qui s'occupent chacun d'un petit bout de truc, comme dans la plupart des bureaux d'études, où vous avez un chargé d'affaires qui lui a une vision transversale et qui s'appuie sur un ingénieur CVC, un ingénieur structure, un ingénieur ELEC, un économiste de la construction, un ingénieur environnement le cas échéant. Tout ça, c'est la partie conception. Puis après, on passe aux travaux. Bah là, ça va être un maître d'œuvre d'exécution qui va prendre la suite, etc., etc. Voilà. Alors ça marche bien. C'est un modèle qui fonctionne et qui économiquement d'ailleurs est probablement un peu plus performant que le nôtre, mais j'ai la conviction depuis le début que le sujet de la sobriété énergétique et encore plus de la transition écologique est un sujet qui demande une vision globale. Et donc pour que on soit capable d'avoir cette vision globale, on cherche à former des ingénieurs qui l'acquièrent petit à petit. Donc on prend les ingénieurs en stage et on les forme à toutes nos missions, les audits, les maîtrises d'œuvre, le suivi d'exploitation, les AMO environnementales, on les forme à toutes nos missions, sur différents types de domaines, et en leur permettant petit à petit d'apprendre tous les enjeux liés à tous les sujets techniques qu'ils auront à traiter. Et année après année, en fait, ils essayent de descendre le niveau de maîtrise, enfin d'approfondir, de creuser le niveau de maîtrise sur tous les sujets. Voilà. Donc ça prend quelques années de former un éco-énergéticien, mais après, une fois qu'ils sont formés, il n'y a pas beaucoup d'équivalents, en fait. Donc, pour répondre à votre question, désolé de cette grande introduction, mais sur le marché, on n'en trouve pas, en fait. Voilà. Donc on peut trouver un ingénieur CVC qui a cette ambition d'élargir son spectre de connaissances en travaillant aussi sur l'ELEC d'abord, alors là ça devient un ingénieur fluide, puis sur le reste des corps d'état du bâtiment, notamment tout ce qui touche à l'enveloppe, donc l'isolation, l'étanchéité, les menuiseries, éventuellement les corps d'état secondaires de finition, hein, revêtement, etc. On trouve des gens comme ça qui ont envie d'élargir leur spectre, donc là tant mieux, parce qu'au moins il y a un bout qui est acquis, il faut qu'ils apprennent le reste, quelques-uns, mais en règle générale c'est compliqué. Parce que les gens qui ont appris pendant 5 ans à 10 ans un métier d'une certaine manière ont du mal à sortir de ce cadre-là, de ce carcan-là et élargir la vision. Voilà. Donc nous, on recrute beaucoup de jeunes. Alors au début, c'était compliqué parce qu'on fait ça depuis le début. Voilà, on était 6 en fin 2007 et on est passé à 11 d'un coup en prenant 5 stagiaires d'un coup. C'était encore autorisé à l'époque en 2008. Et la plupart d'entre eux sont restés d'ailleurs de longues années dans l'entreprise ensuite, hein, cette première promo de stagiaires. Après, on a continué tous les ans. Donc là, je viens d'accueillir la semaine dernière 30 stagiaires pour toutes nos agences qu'on a accueillis en séminaire d'intégration pendant 2 jours. Et on les forme. Voilà, on les forme à tous ces métiers. Alors avec la transformation en entreprise à mission l'année dernière, on a fait un petit peu évoluer notre modèle. Puisque auparavant on leur proposait une polyvalence donc sur les types de missions, sur les domaines techniques qu'ils avaient à approfondir, mais également sur les champs d'application, c'est-à-dire qu'ils pouvaient travailler un coup sur du logement social, un coup sur une école pour une collectivité, un coup sur des bureaux pour une administration, un coup sur un centre commercial pour un acteur privé. Bon, et là en fait on s'est rendu compte que ça faisait un champ des possibles qui était trop ambitieux. Voilà. Quelques-uns hein, arrivaient à maîtriser tout ça, et on a des collaborateurs qui ont dit ça à 15 ans d'expérience, qui ont une culture de l'efficacité énergétique tout terrain qui est assez impressionnante, mais c'était globalement un peu trop ambitieux comme façon d'être organisé, et donc on s'est organisé différemment en ayant une logique par marché, et finalement comme les cabinets de conseil. Je vous disais tout à l'heure qu'on fait le métier de bureau d'études comme un cabinet de conseil. En fait, c'était pas tout à fait vrai. Pendant 10 ans, 15 ans, on l'a fait encore plus ambitieux que les cabinets de conseil, parce que les cabinets de conseil, ils sont organisés par grand marché.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait, et on a été accompagné pour ça d'ailleurs par BPI France, hein, qui nous a aidé à faire un diagnostic dans le cadre de l'accélérateur transition énergétique, où on a été vraiment bien accompagné et on a compris, enfin pris conscience de ça. Donc maintenant, on a réorganisé donc notre façon de s'adresser au marché avec des interlocuteurs marché. L'idée étant que petit à petit les gens en fait acquièrent vraiment tous les codes d'un marché, c'est-à-dire que nos clients, ce qu'ils attendent de nous, c'est pas seulement d'être capable de faire un cahier des charges et de suivre des travaux, mais c'est aussi de les aider à monter le projet en fait. Et pour ça, il faut savoir sur un marché donné quels sont les enjeux économiques, quelles sont les subventions qui existent, s'il n'y a pas un appel à projet de l'ADEME qui va sortir qui pourrait être intéressant. Quand ensuite on sollicite des entreprises pour faire les travaux, il faut savoir quelles sont les bonnes entreprises qui sont bien organisées pour ce marché en question, etc., etc. Donc il y a toute une culture de l'écosystème que un marché constitue qui est à acquérir. Et autant quand on fait un audit énergétique d'une école, c'est pas très compliqué de faire un audit énergétique du résidentiel. Il y a quelques réglages à faire, mais globalement on maîtrise la démarche, etc. Autant quand on fait une maîtrise d'œuvre de réhabilitation dans un marché en particulier, on saura refaire aussi un cahier des charges sur un autre, mais la cohérence d'ensemble du projet sera moins bonne. Voilà. Donc on a cette organisation là maintenant. Enfin, on est en train de la mettre en œuvre pour que on apporte à nos clients une réponse encore plus globale et surtout pour qu'on soit encore plus acteurs de la transition, que nos projets aient un impact environnemental encore plus fort, parce que quand on maîtrise vraiment son sujet, on a l'écoute du client. Et on peut le prévenir en amont, anticiper, lui dire « attention, vous allez avoir telle et telle difficulté », ou alors « chouette, vous allez pouvoir saisir telle opportunité à laquelle vous n'aviez pas pensé parce que vous ne le saviez pas, mais moi je le sais parce que c'est mon métier, je connais votre mode de fonctionnement, et donc je vous propose d'aller dans cette démarche-là. Voilà. »
Et comment vous organisez cette réorganisation autour de marché et cet aspect qui est encore très très ancré chez Nebsen du multilocal?
Alors, les deux sont pas du tout incompatibles. Au contraire, ça enrichit, ça, pour le coup, puisque justement, on nomme des responsables de marché dans toutes les agences.
Ah, d'accord, c'est dans toutes les agences, il y a des responsables de marché. D'accord,
voilà. Okay. Alors, oui et non. C'est-à-dire que chaque responsable d'agence a fait le choix parmi la douzaine de marchés qu'on a définis de dire, moi, en local, je vais me recentrer sur tel et tel marché. Voilà. Parce que c'était aussi une des difficultés qu'on avait. On a vraiment la volonté d'avoir des équipes à taille humaine. Une équipe à taille humaine, c'est une quinzaine de personnes. Après, c'est compliqué. Et en fait, quand on crée une agence en local, le créateur avait tendance à taper un peu dans tous les sens parce que il faut manger, hein, faut développer. Donc voilà. Et finalement, en faisant ça, il se tirait un peu une balle dans le pied parce qu'il ne se créait pas un réseau cohérent. Donc ça, on en a pris conscience aussi. On a dit, quand on va développer une activité maintenant, quelque part, on va y aller marché par marché. Voilà. Donc les responsables d'agence ont choisi les marchés prioritaires pour eux par rapport à leur historique, leurs affinités, les envies de l'équipe locale, et on a nommé des responsables de marché sur les marchés qu'ils ont choisis. Donc les petites agences n'interviennent pas sur tous les marchés sur lesquels Nebsen est capable d'intervenir. Ils ont fait des choix.
Voilà. Okay.
Pour moi, la condition du bonheur, c'est de sentir que ce qu'on fait a du sens, a une valeur et est utile aux autres, quoi. Vraiment. Et donc, être entreprise à mission, bah, c'est juste naturel, en fait.
Dans la suite de l'entretien, Alexandre revient sur le choix de société à mission. Une évidence pour l'entreprise, peut-être, mais une évidence qui va l'inciter à mesurer davantage ce qu'elle fait et comment elle le fait. Surtout, écoutez bien comment Alexandre détaille chaque mot de la raison d'être. Je trouve que c'est un excellent moyen de se rendre compte que les mots comptent, ils portent des actions et des axes de développement.
Alors vous avez déjà pas mal parlé de cette partie entreprise à mission, mais on va la creuser encore davantage. Donc avant qu'on commence, vous me disiez bon, ça faisait longtemps quand même que je réfléchissais à ça. Pourquoi?
Bah parce que c'est le sens de l'entreprise, en fait. Enfin, vous disiez en me présentant que vous aviez l'impression que j'avais toujours été fait pour ça. Alors oui, un peu, parce que moi j'ai tendance à me projeter. Je me suis très tôt demandé ce que j'allais faire de ma vie. Et dans l'école de commerce que j'ai faite, qui est une excellente école de commerce, c'est l'Institut commercial de Nancy. Voilà, si je fais un peu de pub, ça mange pas de pain. On partait au bout de 3 mois en séminaire pendant une semaine. Pendant lesquelles on avait des activités collectives plutôt ludiques, et une demi-journée par jour sur la connaissance de soi-même. Donc on a fait plein de tests psychotechniques divers et variés, de la graphologie, de la morphopsychologie, de la sophrologie, enfin bref, plein de trucs. Et l'idée, c'était de nous aider à décider un peu, enfin à mieux se connaître, savoir qui on était, et puis vers où on voulait aller. De tout ça, moi, il est ressorti de manière assez évidente que j'étais plutôt fait pour être entrepreneur. Voilà, ça m'allait bien. Et donc, si j'ai commencé à travailler dans des grosses entreprises au début, c'était pour acquérir les briques de base qui me permettraient d'être un meilleur entrepreneur ensuite. Et pour moi, un entrepreneur, avant tout, c'est le vendeur de son entreprise. Donc, il fallait que j'aie des bonnes maîtrises commerciales. C'est pour ça que j'ai démarré chez Procter, qui est une excellente formation commerce marketing. Et puis bah après, par le hasard des choses, j'ai été chassé par Altran Technologies, qui a une approche très entrepreneuriale, enfin qui avait en tout cas à l'époque, parce que j'en suis parti en 2006, donc je ne sais plus vous dire comment c'est aujourd'hui, mais voilà. Et là, j'ai travaillé qu'avec des ingénieurs, et j'ai adoré ça. Voilà, j'ai adoré ça parce que ce sont des gens qui sont beaucoup plus concrets, moins tordus, moins manipulateurs. Alors bon, c'est un peu des portes ouvertes ou des images d'Épinal que j'évoque. Enfin, j'ai vraiment adoré travailler avec des ingénieurs. Et puis en plus, moi, à titre personnel, voilà, je suis abonné à Sciences et Vie depuis toujours. Je me suis toujours intéressé aux enjeux scientifiques, techniques et notamment climatiques. Donc, à un moment donné, chez Altran, on a commencé à développer de l'activité sur l'efficacité énergétique. J'ai dit chouette, ce truc-là, c'est ce que je veux faire. Ça a du sens. Ça a du sens parce que ça a une utilité. Et quand vous me posiez la question de l'entreprise à mission depuis longtemps, pourquoi ? Moi, je suis convaincu que on est plus heureux individuellement et collectivement si on se sent utile. La condition du bonheur, c'est pas, à mon avis, pour un individu d'avoir un compte en banque bien garni ou une très belle voiture ou encore plus un yacht et des résidences secondaires à n'en plus finir. C'est même peut-être même une condition du malheur d'ailleurs d'en avoir trop, et ni pour une entreprise d'avoir une rentabilité excessive ou exceptionnelle, ou de faire la une des journaux parce qu'on a fait la levée de fonds du siècle. Non, pour moi, la condition du bonheur, c'est de sentir que ce qu'on fait a du sens, a une valeur et est utile aux autres, quoi, vraiment. Et donc être entreprise à mission, bah, c'est juste naturel, en fait. Une entreprise ne peut être pérenne que si elle a une vraie valeur ajoutée sur son marché. Ça, pour le coup, c'est même de l'économie de base, même si on n'est pas idéologiquement humaniste, quoi. Et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à Geneviève Ferron-Creuset quand elle m'avait interrogé sur le sujet. Elle travaillait donc sur les prémices de la loi Pacte. Elle avait fait un panorama international sur les différentes structures de sociétés à mission, dans les différents pays. Voilà.
Là, on est en 2017, hein, c'est ça?
Ouais, par là, je crois. Peut-être même un peu avant, je sais plus. Enfin, bon, bref. Et donc, elle m'avait interrogé. Je lui ai dit, mais en fait, moi, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai pris des statuts. Bon. Et j'ai regardé les statuts. Au début, on dit qui crée, puis on dit ce que l'entreprise va faire. C'est l'objet social. Alors, la plupart des gens prennent les statuts et puis recopient un objet social un peu bidon en changeant juste la première ligne. Et puis voilà. Mais en fait, cet objet social, c'est le sens de l'entreprise. Une entreprise, son but, c'est pas de cracher du pognon. Alors, il faut hein, qu'elle gagne de l'argent, parce que sinon, elle n'est pas pérenne. Son but, c'est de bien faire son objet social. Donc sa mission, enfin voilà, pour moi il y avait déjà tout ça derrière. Donc oui, depuis toujours. Et puis j'ai la chance de travailler avec des gens qui partagent cette façon d'être au monde et qui cherchent à donner du sens à ce qu'ils font. Et donc pour eux oui c'est logique. Enfin voilà.
Et comment vous y êtes pris pour construire votre mission, donc à la fois la raison d'être et les objectifs. Peut-être je vais juste relire votre raison d'être. Donc, qui est pour bâtir un monde sobre en énergie, écologique et solidaire, nous mettons en œuvre les projets les plus pertinents qui améliorent en profondeur et durablement l'empreinte énergétique et environnementale de l'existant avec une approche réaliste et humaniste.
Ça s'est fait en plusieurs temps. On faisait tous les 3 mois un CODIR, parce qu'avec le changement d'organisation, on le fait plus que 2 fois par an. Régulièrement, au CODIR, on reparlait de la stratégie de l'entreprise. En 2016, j'ai fait 2 grosses acquisitions. On était passé de 70-80 personnes à 110 personnes d'un coup. Une ancienne filiale d'EDF, TransEnergy, qui fait du photovoltaïque, l'ingénierie photovoltaïque, et puis ESSIC, qui était en sud de l'Île-de-France, qui avait une branche toute petite, ils étaient 2, on va dire, sur le bilan carbone, la transition écologique. Voilà. Et donc, on élargissait d'un coup notre panel de métiers, ce qui nécessitait de refondre la stratégie de l'entreprise. Donc là, on a fait 2 CODIR sur la définition de notre vision, notre mission et nos valeurs. Donc, on avait écrit tout ça déjà à l'époque, en 2017. Et quand est arrivé donc l'envie de devenir entreprise à mission, donc on a repris ça, on l'a légèrement fait évoluer, reformulé, mais c'est assez fidèle à ce qu'on avait écrit à l'époque en fait, hein, pour définir la stratégie 2020. À l'époque, on avait donc écrit notre vision, notre mission, et puis la stratégie 2020 qui en déroulait. Donc la genèse de tout ça, c'est ces 2 gros CODIR, on a pris du temps pour réfléchir à presque une vingtaine, on était hein, sur ce que c'est que la vision de ce que doit devenir Nevsen et ce que c'est que notre mission. Parce que dans nos statuts, alors pour coller au formalisme de la société à mission et des statuts, on a donc tout formulé, comme vous l'avez dit, dans une raison d'être qui est en un seul mot. Mais en fait, dans notre ADN, dans notre feuille, presque le code Nevsen, le code génétique Nevsen, on a différencié la mission et la raison d'être. Pour moi, la raison d'être, c'est vraiment le pourquoi. Voilà. Le pourquoi on fait ça, qu'est-ce qui nous motive, quelle est l'intention derrière, quelle est la finalité. Voilà, dire si en fait l'entreprise n'existait pas, qui répondrait à ces attentes-là, quoi. Voilà. Donc notre raison d'être, elle se dit en une seule phrase, c'est bâtir un monde sobre en énergie, écologique et solidaire. Voilà. Facile à retenir et bon. Ambitieux à mettre en œuvre, mais voilà, comme toute raison d'être. Et du coup, la mission derrière, c'est un côté un peu plus concret, quoi. C'est quels sont les principes d'action. Et pour mettre en œuvre notre raison d'être, comme vous l'avez dit dans la phrase, nous, notre façon de faire, c'est de mettre en œuvre, justement, les projets. On est des ingénieurs, hein, donc on monte des projets les plus pertinents. Donc pertinent, ça veut dire que on a toujours une conscience aiguë des contraintes opérationnelles de nos clients. Même si on est ambitieux sur le fait que ça avance vite, on a conscience que tout projet peut pas être le grand soir et qu'il faut tenir compte d'un existant, faut tenir compte d'un budget, faut tenir compte d'un planning, faut tenir compte d'une réglementation. Bref, on a toute une kyrielle de contraintes à intégrer à un projet. Et notre ambition, c'est que sur chaque projet, on fasse le mieux possible compte tenu de tout ça. Donc ça, c'est le sens de la pertinence des projets. Néanmoins, on veut que les choses soient améliorées en profondeur. Alors en profondeur, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si un client a un budget d'un certain montant et qui veut embrasser assez large, qui veut travailler sur plusieurs domaines techniques, on va plutôt lui conseiller de supprimer un domaine technique et d'aller plus loin sur tous les autres, de telle sorte qu'en fait, sur l'opération à l'instant T qu'on fait, il a effectivement le niveau de performance qu'il recherche, mais il n'a pas tué son gisement de négawatts. Voilà. Il reste un lot technique sur lequel il n'est pas encore intervenu, et quand il aura des sous à nouveau pour intervenir dessus, il pourra aussi, sur ce lot technique, aller le plus loin possible. Voilà. Donc ça, c'est la notion d'aller en profondeur, le plus profond possible, et durablement, c'est une notion de pérennité, et dans l'ingénierie, on a en particulier dans des ingénieries très pointues, spatiales, aéronautiques, on a la notion de FMDS, fiabilité, maintenabilité, durabilité, sécurité. Cette notion-là, c'est une notion qui est assez étrangère au monde du bâtiment, mais qu'on essaye aussi d'importer. Et ça veut dire, par exemple, des choses toutes bêtes, mais on a des fois des clients qui nous sollicitent et qui ont envie de mettre en œuvre des systèmes techniques un peu innovants. Voilà. Sauf qu'un système technique trop innovant, si les occupants du bâtiment ne savent pas s'en servir et piloter, si les entreprises d'exploitation, donc les mainteneurs qui vont entretenir l'installation derrière, ne savent pas non plus l'entretenir, en fait, en 3-4 ans, vous avez un truc qui ne marche plus du tout, qu'il faut parfois remplacer, donc prématurément, parce que ce n'est pas censé vivre que 3-4 ans. Et quoi qu'il en soit, même s'il ne faut pas le remplacer, il vit d'une manière qui fait que son rendement, donc son coefficient de performance, est inférieur à un système qui aurait été en théorie un peu moins performant initialement, mais qui en pratique, dans la durée de vie, va l'être plus, parce qu'en fait les gens, ils sont à l'aise avec, ils savent s'en servir, etc., etc., etc. Voilà. Sur les systèmes techniques en particulier, on a des multitudes d'exemples dans le bâtiment de choses technologiquement un peu trop ambitieuses qui finalement au départ sur le papier fonctionnaient très bien et à la fin fonctionnaient pas bien. Donc ça, c'est aussi un message qu'on passe à nos ingés. C'est pour ça qu'on leur fait faire aussi du suivi d'exploitation et qu'on travaille sur l'existant pour qu'ils aient une conscience aiguë des réalités d'occupation et d'entretien d'un bâtiment et de ses systèmes techniques, pour que derrière, les solutions qu'ils prescrivent quand ils sont en phase de maîtrise d'œuvre et de conception soient des solutions durables. Voilà.
Et pertinentes.
Et là, il y a le durablement. Voilà. Et le dernier, la dernière phrase, donc l'empreinte énergétique et environnementale. Bon, voilà, on ne veut pas simplement travailler sur l'énergie, hein, on travaille un peu plus large que ça, et de plus en plus large. Sur l'eau dans l'industrie aussi, par exemple, sur les effluents atmosphériques dans tous les projets, bon, voilà. Et de l'existence. Ça, pour le coup, c'est un choix. C'est une question qu'on s'est reposée à l'occasion de notre nouvelle stratégie et de cette définition-là. Mais voilà, notre ADN, vraiment, c'est de travailler sur l'existant et de les accompagner dans cette transition pour aller vers du mieux, en le faisant, comme on le disait en dernier, avec une approche réaliste et humaniste, réaliste au sens où on est concret, pragmatique, tous nos audits ont fait des mesures, par exemple, hein, on s'appuie vraiment sur des données réelles du terrain, et humaniste, parce que c'est ça qui donne du sens à notre action. L'écologie, elle vaut pas dans l'absolu, elle vaut pour que l'homme reste au centre de tout. Voilà. Alors là, certains écolos seront pas d'accord avec moi quand je dis ça, j'en ai bien conscience, mais pour moi, l'écologie est au service d'une humanité heureuse sur la Terre, quoi. Voilà.
C'est intéressant. Merci d'avoir détaillé un petit peu cette raison d'être. C'est le genre de décryptage que j'aime bien faire aussi. Donc c'est intéressant de voir comment vous voyez les termes, ce que vous mettez derrière. Je trouve que c'est hyper hyper enrichissant. Et ce que je trouve assez intéressant aussi avec votre raison d'être, c'est qu'il y a un certain nombre de termes que vous utilisez, de mots qui vous sont très propres, et que une entreprise qui pourrait faire plus ou moins la même chose que vous n'utiliserait peut-être pas. La notion de profondeur, la notion d'humanité, qui reflète vraiment quelque chose qui est ancré en vous, qui vous est très singulier. Je trouve que c'est assez intéressant comme d'avoir réutilisé ces termes-là. Il y a même le terme de solidaire aussi que vous utilisez.
Ça, c'est dans la raison d'être. C'est fondamental. Mais c'est un vrai sens, c'est-à-dire que oui, on intervient sur l'énergie et l'environnement, mais on intervient aussi sur le social. Quand on divise par 2, voire 3, voire le record qu'on a fait, c'est divisé par 8 la consommation d'énergie d'un bâtiment. Bon. On divise presque par autant la facture, pas tout à fait parce qu'il y a une petite part fixe qui est l'abonnement, mais on redonne autant de pouvoir d'achat aux gens qui sont dedans. Donc quand c'est une copropriété en difficulté, quand c'est du logement social, Ben, si vous redonnez 50, 100 euros de pouvoir d'achat tous les mois à des gens, c'est un ballon d'oxygène extraordinaire. Ça, c'est directement du social. Quand on aide une usine à devenir dans le top 3 mondial de l'industriel en question sur le ratio énergétique par unité produite, et ben, c'est pareil, on aide au fait que cette usine, elle ait une pérennité sur le territoire français, elle continue à créer des emplois, etc. Voilà. Donc ça, on y croit complètement. Et on vraiment dans tous nos projets, on tient compte de cet aspect un peu social et des gens quoi, des gens qui y sont, qui y habitent ou qui dans les bureaux y vivent. Et alors un exemple tout bête, mais la réglementation dit il faut qu'il fasse 19 degrés dans les bâtiments de logement. Bon, et on vient de nous le rappeler d'ailleurs l'occasion de la crise en Ukraine et de la nécessaire économie de gaz en disant baisser 1 degré ou 2 degrés et revenez à 19 et ça sera géopolitiquement utile. C'est pas faux. Bon, mais on a conscience que la plupart des gens ont du mal à vivre avec ça. Donc quand on va dimensionner une opération de maîtrise d'œuvre de réhabilitation, on va pas prendre comme base 19 degrés. On prend 20, qui est ce que les gens arrivent à peu près à tenir, effectivement. Dans des bureaux, on prend pas 20, on prend 21, parce que c'est impossible de rester les fesses sur une chaise pendant une journée à 20 degrés. Voilà. On a une filiale qui s'était donné l'enjeu de descendre à 19 degrés. Bon, parce que les gens chez nous, ils sont convaincus de notre métier quand même, hein, donc ils essayent de se l'appliquer. Bon, donc première action, le gars qui portait ça m'a dit « Est-ce que j'ai le droit de commander des polaires pour tout le monde ?» Ok. Première action, il commande des polaires pour tout le monde. Donc polaires, achèvement de la filiale, tout ça, et j'étais content. Hein, bah, et du coup, ils mettaient leurs polaires, hein, obligé. Deuxième action, au bout de quelques mois, il dit « Est-ce que je peux commander des mitaines pour les gens ?» Ils en prennent aux mains. Voilà, bon, mais en fait, c'est quasi impossible d'être à 19 degrés en hiver dans des bureaux toute la journée pour travailler quand on est sur un écran. Voilà, donc on a cette approche-là, on tient compte de la réalité des gens, et on s'adapte à ça, on fait le mieux possible compte tenu de ces contraintes-là, quoi.
Avant d'expliciter la raison d'être, vous disiez, bon, c'est une raison d'être qui est ambitieuse et c'est pas toujours évident aussi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, c'est quoi les principaux défis auxquels vous vous confrontez par rapport à votre raison d'être et à votre mission?
Le défi économique de nos clients, c'est le principal en fait, hein, c'est que on doit toujours tenir compte du budget qu'ils ont investi sur le projet et c'est le principal défi qu'on a. Un exemple, c'est les obligations d'audit. Donc régulièrement, l'État légifère et met en place des dispositifs qui obligent les gens donc à mieux connaître leur mode de fonctionnement par rapport à l'énergie. Alors ça date pas d'hier, parce qu'en introduction, vous disiez qu'au début des années 80, c'était assez précurseur de travailler sur l'efficacité énergétique. Oui et non, en fait, parce que pour les plus anciens d'entre vos auditeurs, ou ceux qui sont intéressés au sujet, c'est l'époque de la chasse au gaspillage. Et il y avait une communication très conséquente sur le fait d'éviter le gaspillage énergétique, avec cette espèce de petit bonhomme un peu rond, avec un entonnoir sur la tête. Voilà. Le gaspillage, voilà, le gaspillage. Bah, vous pourrez peut-être trouver l'image pour illustrer le podcast. Et en fait, l'État à l'époque, le ministère de l'Industrie, avait édicté des petits cahiers orange, préformatés, puisqu'à l'époque on travaillait à la machine à écrire, donc les gens prenaient le cahier, ils l'ouvraient, ils prenaient les feuilles, et feuille par feuille, il y avait des cadres, et il fallait remplir avec la machine à écrire l'audit énergétique. Et tous les industriels, au début des années 80, devaient déjà faire des audits énergétiques. Voilà. Alors ça, c'est l'avantage qu'on a peut-être par rapport à d'autres intervenants, c'est qu'on a ce retour d'expérience sur un peu l'histoire de l'efficacité énergétique. Donc non, ça date pas d'aujourd'hui. Alors oui, être vraiment focalisé là-dessus à l'époque, et surtout le faire avec une vision globale, comme on le fait toujours aujourd'hui, c'était assez précurseur et pionnier. Bon, mais quand même, c'est des choses qui sont des sujets anciens. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est de plus en plus d'actualité ça fait des années que le GIEC dit voilà, les enjeux climatiques, ça aura des conséquences écologiques, économiques, géopolitiques, sanitaires. Bon bah là, en l'espace d'un an, là, on a tout vu là. Et si on reprend les prévisions d'évolution du GIEC depuis le début, hein, le premier rapport, on voit que finalement, malheureusement, toutes les politiques publiques se basent à peu près sur les scénarios médians, parce que c'est ce qui paraît intellectuellement réaliste, alors que la réalité, elle est plutôt entre le médian et le pire, quoi. Voilà. Voire plus proche du pire que du médian. Voilà. Ouais. Bon, donc on a une urgence et cette urgence se heurte à plein de barrières. Donc d'abord les barrières économiques, mais aussi des barrières culturelles. C'est dur, hein. Enfin, je veux dire, moi le premier, j'ai pas renoncé à tout ce à quoi je sais qu'il faudrait renoncer. À titre personnel, voilà. Je peux avoir un discours peut-être ambitieux sur certains sujets, avec des pratiques qui sont un peu dissonantes aussi, on l'est tous, quoi. Voilà. Mes ingés qui sont tous hyper écolos, j'ai fait le bilan là il y a un mois, on a 34% de nos effectifs qui viennent au bureau en vélo. Voilà. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sociétés en France qui sont à ce taux-là, en fait.
C'est beaucoup, hein.
C'est...
Surtout, bon, ça, en soi, pour une petite entreprise, pourquoi pas. Mais là, vous êtes quand même un peu plus gros, donc ça représente une...
Ça fait 58 personnes, voilà. Ça dans un contexte où on rembourse 100% des transports en commun, c'est-à-dire que les autres viennent aussi en transport en commun. Là, c'est juste le vélo, je parlais. Mais même ces gens-là, qui sont donc tous très écolos, qui sortent tous de super formations et qui ont fait le choix de venir chez nous alors qu'ils auraient pu gagner 15 ou 20% de plus en allant dans des grands groupes, même eux, quand je fais le tour des bureaux entre midi et deux, là, à midi, là, aujourd'hui, j'ai encore éteint 2 PC. Alors bon, on a des PC Energy Star 5 étoiles, donc quand ils tournent pas, ils consomment pas trop. Mais enfin, c'est toujours des kilowatts en trop. Quoi. Enfin, des watts, parce que là, je pense pas qu'on soit kilowatts, mais c'est toujours des watts en trop. Voilà. Donc on a tous, individuellement, un chemin à accomplir, hein, moi le premier. Donc ce changement culturel, il est conséquent. Quand on fait une réhabilitation énergétique, parfois on prend des bâtiments dans lesquels la température moyenne avant qu'on intervienne c'était 22-23 degrés parce que c'était comme ça, voilà. Alors non seulement on fait des travaux d'économie d'énergie, mais en plus on gagne beaucoup sur l'exploitation parce que petit à petit on va apprendre aux gens à descendre de 22-23 degrés jusqu'aux 20 degrés qu'on arrive à peu près à tenir, quoi. Mais il y a plein d'astuces comme ça quand vous nous on fait du suivi d'exploitation, donc en copropriété dans le logement social. Donc quand on donne le go aux exploitants pour redémarrer le chauffage collectif, souvent on leur dit voilà, vous lancez un peu fort là pendant 2-3 jours pour évacuer l'humidité des bâtiments, montrer aux gens psychologiquement que ça y est, le chauffage il est parti. Bon, puis après, de toute façon, bon, voilà, on n'a pas encore vraiment beaucoup besoin, donc vous redescendez quand même pas mal. Et puis quand vraiment le froid va arriver, bon, on s'y remettra. Quand des gens ont été habitués à 22 degrés, vous pouvez pas passer de 22 à 20 d'un coup. Il vous faut 3-4 saisons de chauffe pour y arriver. Ce qui est long, 3-4 ans, parce qu'il faut descendre demi-degré par demi-degré pour habituer les gens. Voilà. Donc il y a cette barrière-là, de culturelle, de comportementale. Et en fait, c'est pour ça que je parle de sanctions, parce que je fais souvent l'analogie avec la prévention routière. Moi, je fais partie de la génération qui avait les gendarmes qui venaient en primaire pour faire des petits jeux, apprendre le code de la route, etc. Et puis donc qui a vu arriver les spots de la prévention routière, qui étaient parfois assez cash quand même, hein, ouais, quand on clair. Était jeune. Hein. Ils ont un peu changé de ton, ils sont plus dans l'humour maintenant, mais quand on était jeune, c'était parfois radical. Voilà. Et puis en fait, il se passait pas grand-chose. Il y avait toujours 8 à 10 000 morts tous les ans sur les routes. Jusqu'à ce qu'un jour, un gouvernement dise « bon, ben maintenant ça suffit, on met des radars partout ». Voilà. On met des radars partout. Et ils en ont mis partout. Alors, tout le monde a râlé. Les associations d'automobilistes ont dit privation liberté, pompe à fric, etc., etc. Bon, le résultat, c'est qu'on a 3 000 morts, quoi. Voilà. 7 000 morts économisés, c'est juste énormissime, en fait, pour la société. Et sans compter les familles, évidemment, pour qui c'est des drames évités, mais voilà. Bon, moi, ma conviction au niveau de la transition écologique, c'est que on arrive à la fin de la période de prévention, de sensibilisation. Ça y est, maintenant tout le monde en a conscience et je pense que les gens sont prêts collectivement à subir des sanctions. Et s'ils respectent pas la règle, de s'en rendre compte, quoi, parce que la sanction matérialise.
Ouais. Alors là, vous êtes parti sur la assez naturellement sur le dernier chapitre de ce de ce podcast. On y reviendra parce que c'est vraiment très très important. Mais peut-être petit retour en arrière sur la mission. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez fait ce travail global de travailler à la fois la raison d'être, la vision, les valeurs de l'entreprise,
les objectifs environnementaux et nos différences, nos forces, ce qui rend Nebsen unique.
Ouais. Et est-ce que vous aviez Il y a une raison particulière où vous êtes dit non, on veut pas juste travailler sur la mission, on veut vraiment travailler sur l'objet dans sa globalité, parce qu'en plus il y avait ce projet de fusion ou...
Oui, il y avait une question de refonte stratégique d'entreprise, donc savoir qui on est, ce qu'on veut être, comment on veut le faire, etc. Donc tout ça, il y a une cohérence. Et puis il y a une cohérence globale, parce que peut-être que certains rencontrent comme difficulté au moment de définir leur mission, leurs objectifs sociaux et environnementaux, c'est bah, qu'est-ce que ça veut vraiment dire en fait, qu'est-ce qu'on met derrière. Et c'est pas évident parce que c'est des termes qui sont relativement synonymes. Les principes et les valeurs, c'est relativement synonyme. La mission, la raison d'être, c'est relativement synonyme. La vision, l'entreprise, tout ça, c'est relativement synonyme. Donc, bah, on s'est un peu creusé la tête sur ce qu'on voulait mettre derrière chacun de ces paragraphes. Comment on différenciait les choses. À partir du moment où on a vu qu'il y avait des choses un peu différentes, bah, on a rempli toutes les cases, quoi. Voilà, c'est...
Là, jusqu'à présent, sur les différents éléments, vous avez principalement parlé de concertation en interne. Est-ce que vous êtes allé aussi à un petit peu, vous avez consulté des clients ou des partenaires
Non. On l'avait fait quand on a choisi le nom du groupe en 2009, Nebsen. On avait d'abord fait un travail interne avec un certain nombre de noms, puis on était sorti deux ou trois. Deux, je crois, deux. Et là, on avait consulté large parmi tous les partenaires, etc., pour dire quel est le nom que vous préférez. Quoi. Voilà. Sur la mission, non. Parce qu'on a ce travail d'introspection fréquemment. Et c'est vraiment la personnalité de Nebsen. Quoi. Une entreprise, c'est un être moral. Elle a une personnalité. La culture d'entreprise, c'est un peu la personnalité de l'entreprise. Donc... Il n'y a pas beaucoup d'évolution par rapport à ce qu'on avait écrit en 2017, en fait. Il y a un réarrangement, organisation, mais globalement, c'est vraiment la même ligne directrice. Il y a une fidélité globale à l'impact qu'on veut avoir en tant que collectivité humaine, quoi.
Est-ce que vous l'avez expliqué à vos clients ou à vos partenaires, ce choix d'aller vers l'entreprise à mission? Et si oui, comment?
Non, on a juste fait on n'est pas très fort en com. Chez nous, même si grâce à notre super chargé de communication depuis 2 ans là, ça commence à bouger, mais avant on était vraiment nuls quoi, on pensait jamais à communiquer et donc là on a fait un article sur le site internet qu'on a relayé sur LinkedIn et puis voilà, enfin il n'y a pas de but commercial ou mercantile derrière cette transformation là, il y a un but de cohérence, voilà, d'être cohérent avec ce qu'on est, et puis aussi de fixer nos propres sanctions, entre guillemets, c'est-à-dire que avec la société à mission, vient le comité de mission, viennent aussi les objectifs sociaux et environnementaux, qui dit objectif, dit tableau de bord. Voilà, donc ça veut dire, et c'est un travail qu'on a...
Il y a l'OTI aussi qui...
Et il y a l'OTI qui vient vérifier, voilà. Et donc tout ça, c'est des choses qui vont nous contraindre, parce qu'en fait, on est tous intimement convaincus qu'on fonctionne comme ça, qu'on va dans le bon sens, qu'on est des gens bien, voilà. Bon, c'est... Tout rassurant.
C'est déjà bien, voilà.
Mais en fait, collectivement, en tant qu'entreprise et qu'organisation, pour vraiment s'améliorer, il faut mesurer. Donc, sans le mesurer pas, c'est donc le fait d'avoir franchi ce cap nous oblige à le faire. Et vous voyez, on n'a même pas encore finalisé le choix de notre OTI. Bon, il ne va pas intervenir tout de suite, hein, il intervient dans 1 an, mais voilà, il faudra le faire. Et mis en place les tableaux de bord. Il y a un certain nombre de choses qu'on suit, qu'on sait et qu'on saura chiffrer le avant-après, mais on n'a pas formalisé encore le tableau de bord de la mission. Mmh. Voilà. Donc, le devenant, on s'oblige à le faire. Voilà.
Non, ce qui est très bien, parce que et c'est vrai que c'est un vrai défi. Peut-être le plus difficile, c'est que beaucoup se disent, ça demande déjà beaucoup de travail pour devenir entreprise à mission. Alors vous aviez déjà fait une démarche. Déjà très engageante avant, donc c'est vrai que ce travail d'introspection, vous l'aviez déjà fait, mais pour beaucoup d'entreprises, c'est pas nouveau, mais en tout cas, à cette profondeur-là, ça peut être assez nouveau. Mais c'est vrai que une fois qu'on est passé entreprise à mission, c'est bien, mais il y a tout ce qu'il faut faire derrière.
Il faut le devenir.
Il faut le devenir, ouais, ouais. Non, voilà. Oui, non, mais c'est vrai qu'on... On l'est de facto, si je puis dire, ou de jure là pour le coup avec les statuts, mais après dans les faits, il faut l'incarner, et c'est là où les tableaux de bord, les feuilles de route, les projets, les objectifs quantifiés, etc., arrivent et peuvent demander un travail complémentaire. Mais tout à l'heure vous utilisiez le terme de stimuli réglementaire. Je trouve que c'est un bon stimulus
C'est ça, exactement.
Aussi. Plus qu'une contrainte, c'est un stimulus pour progresser, pour s'améliorer.
C'est exactement l'idée. Voilà, en franchissant ce cap-là, on dit ok, bon, maintenant, faut qu'on le soit, quoi. Ouais. On a la chance d'être sur un secteur d'activité qui est très dynamique, qui est évidemment d'avenir, parce qu'on a besoin de ce type de compétences, on en a de plus en plus besoin. Et donc, ce marché, il est en train de s'inventer. C'est un marché émergent. Il cherche un peu ses modèles. Voilà. Et si on peut être un des modèles de ce marché-là, ben voilà, je serais fier de ça.
Dans cette dernière partie, on rentre davantage dans les convictions d'Alexandre, notamment sur la transition écologique et le changement climatique. Tout part d'une détestation pour le gaspillage. Vous verrez, c'est assez intéressant.
Si on en revient justement, donc là pour cette dernière partie, un petit peu plus sur vous, vos convictions aussi en tant que dirigeant d'entreprise. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai l'impression, alors souvent il peut y avoir une distinction entre la casquette citoyen et la casquette dirigeant d'entreprise. On peut être très engagé comme citoyen et comme dirigeant d'entreprise, être un peu plus contraint. J'ai l'impression que vous, il y a une seule casquette, c'est l'engagé. Citoyen, dirigeant, engagé sur les aspects de transition écologique plus particulièrement. Avant d'en arriver sur la transition écologique, il y a une phrase, je crois que c'est sur le site internet, qui dit « Ce qui fait la quintessence d'une entreprise, c'est son utilité sociale. » C'est quand même assez, assez intéressant comme manière de dire « Avant toute chose, une entreprise doit avoir une utilité sociale. »
Bah, c'est une conviction, mais pas seulement théorique ou idéologique, hein, c'est une conviction pratique. C'est-à-dire, je pense qu'une entreprise ne peut être durable que si elle permet à des clients d'accéder à une certaine valeur ajoutée. Donc elle a une utilité sociale. Elle doit servir ses clients le mieux possible grâce à des collaborateurs le plus épanouis possible. Et donc, pour moi, c'est une évidence. Et je suis pas le seul. Moi, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mmh. Je fais aussi partie de la communauté des entreprises à mission, qui a pas du tout, là, pour le coup, de caractère confessionnel. Tout ça, c'est que des gens qui partagent ces idées-là. Donc, c'est pas seulement une évidence qui m'est personnelle, c'est une évidence réellement partagée. Cette conviction-là, elle influence tout, en fait. Toute la logique générale de l'organisation d'entreprise. Une entreprise, forcément, comme tout patron d'entreprise, je suis un peu mégalo. Ma mégalomanie, c'est de créer une entreprise qui apporte une valeur ajoutée et qui ait cette utilité sociale, voilà, qui fasse que le monde n'est pas pareil parce que l'entreprise existe. Voilà, c'est mon côté mégalo.
Voilà. C'est pas mal. C'est une bonne mégalomanie.
Ouais. Mais donc voilà, c'est ça qu'il y a derrière. Je veux dire, et alors quand je pense à ça, je pense pas d'ailleurs seulement aux services qu'on vend à nos clients en essayant de les vendre au juste prix, mais je pense aussi au modèle d'entreprise qu'on essaye de créer. On a la chance d'être sur un secteur d'activité qui est très dynamique, qui est évidemment d'avenir, parce que on a besoin de ce type de compétences, on en a de plus en plus besoin. Et donc ce marché, il est en train de s'inventer. C'est un marché émergent. Il cherche un peu ses modèles, voilà. Et si on peut être un des modèles de ce marché-là, avec notre organisation qui donc accorde une certaine importance à nos collaborateurs, leur donne de la polyvalence, de l'autonomie, et pratique des prix qui sont suffisants pour être rentables, mais en même temps juste, quoi, et peu élevé finalement au regard de la qualité de ce qu'on produit et de l'importance de ce qu'on fait, je serais fier de ça, ouais. Si je peux driver ça, et quand j'ai des collaborateurs qui partent après avoir passé quelques années chez nous et appris le métier d'entrepreneur, parce que tous nos collaborateurs sont des intrapreneurs, et pour monter leur entreprise, j'en suis le premier heureux, et tant mieux, voilà. Et si on peut essaimer plein de mini Nebsen qui ont cette vision-là, ces valeurs-là, alléluia.
Et par rapport justement à la transition écologique, alors vous en avez déjà parlé un petit peu à différents moments, mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou pour avoir une conscience aussi marquée, aussi affirmée, comment vous l'expliquez ?
Alors moi, j'ai toujours été très sensible à l'efficacité. Déjà, quand j'étais étudiant, enfin écolier, j'aimais bien passer le minimum de temps sur mes devoirs. Voilà. Donc, l'efficacité, c'est une notion qui m'est vraiment très très personnelle. J'aimais pas en tant que salarié remplir des tableaux trois fois, quatre fois, bref. Et dans l'organisation d'entreprise, je fais tout pour que les collaborateurs ils saisissent une fois une donnée à un endroit et tous les autres, c'est à nous de nous démerder pour qu'on ait la donnée, mais on va pas leur demander de remplir trois, quatre tableaux parce qu'un tel il veut un tableau comme ça, un tel il veut un tableau comme ça. Mmh. Voilà. Donc j'ai toujours été sensible à l'efficacité. Le corollaire de l'efficacité, c'est le gaspillage. Le gaspillage, c'est quelque chose qui me perturbe, me choque vraiment énormément. Je finis les assiettes à la table quand elles sont pas finies. Alors là, je suis un peu en surpoids du coup, mais voilà. Quand j'étais lycéen, il y avait une petite phrase à toutes les portes d'entrée des classes. C'était ce qui me scandalise, ce n'est pas qu'il y ait des riches et des pauvres, c'est le gaspillage. C'était Mère Teresa qui avait dit ça. Voilà. Elle vivait donc dans les bidonvilles de New Delhi, hein, et avec les gens qui triaient les immondices, hein, voilà. Donc elle était dans un dénuement et une pauvreté absolue. En plus, en Inde, il y a des castes, donc elle était dans la caste la pire, quoi. Voilà. Et en fait, elle remettait pas en cause le fait qu'il y ait des riches et des pauvres. Et en fait, moi, ça me choque pas non plus. Voilà, j'ai jamais couru le 100 mètres en 9 secondes 58 et je le courrai jamais en 9 secondes 58. Voilà. On est tous différents. On a des qualités, des défauts. Ce qui est important, je pense, pour être heureux et être utile au monde, c'est de mettre à profit ses talents pour les autres. Voilà. C'est comme ça qu'on est heureux, à mon sens. C'est pas en accumulant pour soi-même. Donc le gaspillage, ça m'a toujours choqué. Et donc, forcément, quand j'ai commencé à prendre conscience du gaspillage général, alimentaire, de l'eau, puis ensuite en commençant à travailler professionnellement sur l'efficacité énergétique, un peu par accident d'ailleurs, de l'énergie. Je me suis dit, là, il y a vraiment un truc qui a du sens. Et puis après, derrière, en m'intéressant à ce sujet de l'efficacité énergétique, plutôt d'abord par l'angle du gaspillage, je me suis intéressé au changement climatique, voilà. Donc, dont j'avais très peu entendu parler avant 2005-2006 en fait, très très peu, juste une culture générale parce que je lis la presse régulièrement, etc. Mais enfin, comme le disait Al Gore dans son film en 2006, là, une vérité qui dérange, quand on lit la presse grand public, il y a 50% des articles à l'époque qui niaient le réchauffement climatique et 50% qui l'attestaient. Voilà. Alors que dans la presse scientifique, il y avait 100% des articles qui attestaient le changement climatique. Bon. Et donc, j'ai vécu ce processus comme beaucoup de gens à cette époque-là, de prendre conscience de cette réalité du changement climatique, de mesurer les enjeux, et là on ne peut que saluer une nouvelle fois le travail du GIEC, qui est un travail absolument fabuleux, quoi. C'est de par la quantité de données qui sont brassées, de par le temps qui passe à se mettre d'accord, parce que
ça doit être
ils sont des centaines qui doivent se mettre d'accord, bon voilà, donc et ils arrivent à produire à intervalles finalement assez réguliers des documents d'une richesse et d'une utilité exceptionnelles. Voilà. Donc j'ai pris conscience de tout ça, j'ai lu, je me suis documenté, et là je salue tous les pionniers les vrais pionniers du sujet. Ben, Monsieur Paziot, son époque, voilà, Jean-Marc Jancovici, depuis qu'il a fait la méthode bilan carbone pour l'ADEME et qui s'est engagé à fond là-dedans, ça fait 20 ans maintenant à peu près, et il est un excellent vulgarisateur, et moi je me sens pas du tout pionnier ni... Parce que je me suis j'ai changé, j'ai bifurqué à cette époque-là, quoi, 2006, 2007, je me suis vraiment intéressé à ce sujet à ce moment-là, et j'en ai pris conscience. Bon, maintenant j'ai des enfants qui, j'espère, auront des enfants. J'ai toujours eu conscience assez forte du fait qu'on était très privilégié en Occident et que l'enjeu pour l'humanité, c'est que partout dans le monde, les gens puissent vivre avec un niveau décent et s'épanouir et avoir une espérance de vie convenable, avec en bonne santé, avec un confort de vie cohérent, sans être dans le luxe, hein, c'est pas l'enjeu, mais voilà, pouvoir vivre sereinement, voilà. Et c'est cet enjeu-là, le développement durable, Brundtland le disait déjà en 87, c'est les générations futures, mais aussi les actuelles partout dans le monde. En fait, c'est ça, hein, développement durable pour tout le monde. Voilà. Et bah, tout ça est imbriqué. Et quand le pape François a sorti son encyclique Laudato Si, j'étais très heureux, hein, parce que il a une vision. Enfin, il y a quand même dans le monde catholique, chrétien, mais en général, pas mal de gens qui sont à des postes de direction, enfin des postes socialement assez élevés. C'est un monde un peu privilégié, et c'est un monde qui était plutôt marqué par une défiance vis-à-vis de l'écologie. Donc voilà, quand cette encyclique est sortie, elle est remarquable, hein, courte, mais remarquable, extrêmement, extrêmement bien documentée et pertinente, ça rejoint vraiment mes convictions. C'est-à-dire que préserver les ressources du monde, c'est un devoir pour chacun d'entre nous, pour permettre à tout le monde, tous les humains qui vivent sur cette terre, d'être heureux aujourd'hui et demain, quoi. Voilà.
Ça me paraît être un excellent mot de la fin. Merci beaucoup pour cette explication et c'est les convictions que vous portez. Chaque épisode de podcast, comme l'émissive de la newsletter, se termine par un coup de cœur musical. Alors dans la newsletter, ce sont les miens. Pour le podcast, c'est celui de l'invité. Donc Alexandre, est-ce que vous avez un coup de cœur musical, soit du moment, soit une chanson qui reflète certaines de vos convictions ou certaines des projections faites de votre entreprise?
Ouais, je vous disais à l'instant que j'avais plutôt basculé vers l'écologie il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, une quinzaine d'années. Mais en fait, quand j'étais adolescent, mon groupe musical préféré, c'était Midnight Oil. Alors plus pour le style de musique, mais aussi pour l'engagement qu'ils avaient, justement. Et donc, Beds Are Burning, voilà, c'est un titre qui me paraît assez... assez symbolique de ce qu'il faut combattre, quoi.
Voilà. Ok, c'est en plus un très bon morceau, donc parfait. Merci beaucoup pour cet échange, merci pour toutes ces explications et la richesse de vos propos. Je pense que ça viendra éclairer à la fois sur la partie entreprise à mission, mais j'espère aussi que ça inspirera des dirigeants qui peuvent écouter ou des collaboratrices et collaborateurs aussi à aller plus loin et justement à se dire qu'est-ce que je peux faire de plus. Merci beaucoup.
Merci Vivien.
Merci à toutes et à tous de votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode de La Machine à Sens vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une petite faveur à vous demander. C'est de me donner quelques étoiles, ça monte jusqu'à 5 sur Apple Podcast ou sur Spotify. Bizarrement, sur Spotify, ça ne marche que sur smartphone. C'est vraiment important pour améliorer le référencement et que d'autres puissent découvrir le podcast. Donc s'il vous plaît, je vous remercie de le faire. Pour ne rien rater des prochains épisodes, le mieux, c'est de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Et si vous avez envie d'échanger sur le sujet des entreprises à mission, éventuellement vous faire accompagner pour le devenir, vous pouvez me retrouver sur la newsletter de La Machine à Sens, machineasens.substack.com ou sur LinkedIn. Je vous remercie de nouveau et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.